When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de L'Aglété, de l'équipe Podcastine. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous invitons pendant 8 jours à un voyage dans le passé de la région. À travers une série la plus longue jamais proposée par Podcastine, nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Marie Adias Valderrama.
Vous avancez, s'il vous plaît.
Voilà.
Épisode 8 et dernier épisode, les gardiens de la mémoire.
J'ai pas la voix qui porte.
Je vais te protéger.
Elle porte bien. J'ai une grande gueule, mais j'ai pas la voix qui porte.
Pour finir ces podcasts, je me rends à la base sous-marine des Bordeaux. Une quarantaine de personnes assistent à l'hommage que certains descendants font chaque 14 avril à la proclamation de la Deuxième République espagnole. Le vent et la pluie ne les empêchent pas de venir se rassembler.
En ce vendredi 14 avril 2023, l'édifice du mémorial des républicains espagnols qui fête aujourd'hui ses 11 ans est fier et très heureux de vous réunir encore et toujours le même jour, à la même heure, ensemble, les quatre associations girondines mémorielles des républicains espagnols pour célébrer le 92e anniversaire de la proclamation de la Deuxième République espagnole du 14 avril 1931. En la mémoire de nos parents, de tous ceux qui ont résisté, souffert et péri en Espagne, leur patrie, sous Franco et ses alliés européens, puis en France sous l'occupation nazie, merci d'avoir répondu présent pour ce 14 avril 1931. 2023. Pour tous ces morts et cette souffrance, nous vous proposons une minute de silence.
Ces Français si espagnols, ou peut-être ces Espagnols si français, ont retrouvé dans les associations des descendants une espèce de compréhension, des guérissons des traumas d'enfance, et surtout de mémoire. À 50, 60 ans, le fait de rencontrer d'autres personnes issues de cet exil leur a fait comprendre les silences des parents, les pleurs déguisées, l'exigence envers eux pour qu'ils soient exemplaires à l'école, pour qu'on ne puisse pas parler à mal de ses enfants. Beaucoup d'entre eux ont appris l'espagnol une fois adultes, mais ils sont toujours jetés un œil attentif à la vie politique espagnole.
Je pense que mon plus grand regret, ça a été de comprendre aux environs de la cinquantaine vraiment ce qu'avait été la guerre civile, ce qu'avait été la dictature. J'étais, à l'époque, j'avais 18-20 ans, j'étais au lycée, on faisait des programmes d'histoire, etc. Et je pense que je n'avais pas évalué l'histoire de mon père, parce que je n'étais pas en mesure de comprendre, je n'avais pas cette conscience, en fait. Et c'est comme s'il y avait eu, une forme de négation, en fait, de ça. Et c'est vraiment à l'âge de 50 ans que j'ai réalisé, et là, j'ai développé un sentiment de culpabilité. De ne pas avoir su entendre mon père. J'entendais bien ce qu'il disait, je voyais bien comment il pleurait, mais lorsqu'il était en Espagne, sur ces sites-là, où il perdait connaissance, en fait, de l'instant où il était. Il repartait là-bas. Et c'est vraiment à partir de 50 ans où je me suis approchée vraiment à cette histoire que là, j'ai ramifié toutes les anecdotes qu'avait racontées mon père, mais ce n'étaient pas des anecdotes, c'était des faits réels. Et je n'avais pas évalué la gravité. Et j'ai gardé en moi ce sentiment de culpabilité. et de vouloir récupérer la mémoire historique, mais c'est aussi, derrière tout ça, récupérer la mémoire de mon père, rattraper par mon engagement tout ce à côté de quoi je suis passée, en fait. Moi, j'avais son récit sur le terrain. Je n'évaluais pas comment il pouvait se mettre en colère. Enfin, ça, je savais que Franco, c'était quelqu'un, c'était un dictateur, ça, on le savait. Mais on ne savait pas les fosses communes, on ne savait pas les bébés volés, on ne savait pas tout ça, toutes ces choses-là. Donc, politiquement, je savais, mais vraiment, toute cette dictature, cet acharnement sur le peuple que j'ai appris vraiment après, que j'ai réalisé, pourquoi en Espagne on ne parlait pas, pourquoi on ne racontait pas, pourquoi on ne s'impliquait pas dans la politique, surtout pas, pourquoi on faisait tête basse, tout ça, je l'ai compris après. J'ai compris après. Voilà. C'était cette exposition et cette adhésion à Carmela, c'était vraiment le déclencheur de dire « mais je suis passée à côté de mon père, en fait ». Je suis passée à côté de lui, à côté de sa souffrance.
Madeleine a appris, étant adulte, que son oncle était porté disparu dans une fosse commune, que sa grand-mère avait été incarcérée car son fils était rouge. On lui avait fait avaler de l'huile de ricine. On lui a rassé les cheveux pour l'humilier en public, alors qu'elle avait encore une fille de 7 ans à la maison. Madeleine pense aussi que, plus tard, le bébé de l'une de ses proches a été enlevé. Une pratique commune pendant les franquismes. On sait qu'au moins 300 000 bébés ont été volés à des familles pauvres ou signalés politiquement, avec la complicité de l'Église et de certains médecins qui volaient les enfants pour les donner à des familles sympathisant du régime.
Te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba.
Après la mort de Franco, les pays s'est démocratisé petit à petit. Les années 70 et 80 ont été marquées par une sorte d'insouciance, mais aussi par la peur d'un nouveau coup d'état militaire après celui de 1981. Ce qui explique une transition démocratique qui a vite cherché à tourner la page de la guerre d'Espagne et des 40 ans de dictature. Un peu comme en France, quand on a voulu tourner au plus vite la page de la collaboration.
C'est que la transition, c'est qu'il y a eu un moment...
Dans la transition, il y a eu un moment, une tentative, au moins d'un point de vue symbolique, de surmonter précisément ce qu'avait été la guerre, parce que tout le monde en était encore très conscient dans ce contexte.
Je parle de loi d'amnistie de la transition espagnole, ainsi que du travail des mémoires historiques fait par les gouvernements démocratiques espagnols avec Jesús Alonso Carballés. Il est prof des civilisations espagnoles au XXe siècle à l'université Bordeaux-Montaigne.
En
ce qui concerne les questions mémorielles, nous devons garder à l'esprit que d'un point de vue politique, à partir de ce moment de transition, il est vrai que les autorités essaieront d'oublier ou de surmonter ces difficultés héritées.
Et
que même, par exemple, en 1986, lorsque le 50e anniversaire de la guerre a été commémoré publiquement, socialement, la guerre civile et ses victimes sont très présentes dans l'espace public. Mais il est vrai que, d'un point de vue politique, disons qu'il y a une exclusion systématique de cette question dans le débat public, dans le débat politique fondamentalement. Ce qui n'est pas le cas dans les questions culturelles, les questions historiques, d'historiographie. Il y a eu un véritable essor dans ces années-là des questions connexes, même du point de vue du cinéma, par exemple, de la littérature. Presque tous les spécialistes situent ce retour au tournant du siècle, en raison d'une question générationnelle, le retour de questions mémorielles aussi. Le changement se fait aussi avec l'arrivée au pouvoir du Partido Popular et le type de politique qu'il mène, surtout dans la deuxième législature. L'an 2000 marque cette dynamique de récupération mémorielle.
De récupération mémorielle. Hay una fecha también que es muy significativa que a veces no se le da la importancia.
Il y a aussi une date très significative à laquelle on ne donne pas toujours l'importance qu'elle mérite. C'est 2002, quand pour la première fois, le Parlement espagnol condamne le coup d'État de Franco. Il est vrai qu'il le fait de manière quelque peu ambiguë sans se référer explicitement à juillet 1936. Mais il est vrai aussi que c'est la première fois qu'il y a un consensus entre la plupart des forces politiques pour condamner l'usage de la violence et le recours à des méthodes autoritaires pour faire de la politique.
L'uso de la violencia y el recurso, digamos, a métodos autoritarios para llevar a cabo la política.
Mais même ainsi, il a fallu attendre la fin de l'année 2007 pour voir adopter la première loi sur la mémoire historique et tout ce qui concerne la récupération des fosses communes à partir de l'année 2000, ce qui a rendu cette question centrale, au moins dans les médias, ou certains médias, et certains secteurs de la société espagnole.
Dans l'ambito de los medios de comunicación, o ciertos medios de comunicación y ciertos sectores de la sociedad española.
La loi sur la mémoire démocratique, créée en 2007, a été jugée trop laxiste par la gauche, tandis que la droite a estimé qu'elle allait trop loin. Les conservateurs ont accusé les socialistes de vouloir rouvrir de vieilles blessures. Le texte établit certaines compensations pour les personnes emprisonnées ou torturées et permet à 300 000 descendants de familles républicaines exilées de retrouver leur nationalité. Mais l'un des aspects centraux de la loi, c'est la récupération de fosses communes. Pour récupérer les plus de 5000 corps de personnes fusillées ou portées disparues pendant la guerre et la répression, l'État accepte d'intervenir, mais sous certaines conditions seulement. Dans la plupart des cas, la localisation et la récupération de tombes sont laissées à la charge des familles et des associations. C'est sans doute en partie ce qui explique qu'en 15 ans, on estime qu'à peine 10% de fosses communes ont été ouvertes. Certains travaux ont même été paralysés par des maires opposés à leur ouverture. En 2013 et 2014, le gouvernement national, de droite, n'a même pas accordé un seul euro à cette loi qui s'est traduite, dans la pratique, par une privatisation de la mémoire. Les critiques constantes des Nations Unies sur les lacunes de la loi ont poussé les derniers gouvernements socialistes à remplacer le texte de 2007 par une nouvelle loi en 2022, la loi des mémoires démocratiques. Elle va un peu plus loin de la reconnaissance des victimes. Mais pour les spécialistes, la loi sera à nouveau remise en question si la droite revient au pouvoir dans les élections du mois prochain, compte tenu de l'absence d'accord.
Je
crois que le fait même que cette question soit à nouveau au centre de l'échiquier politique peut parfois être interprété comme une question exclusivement politique. Il y a nécessairement une utilisation politique de cette question, mais je crois aussi que les politiciens n'ont pas été assez sensibles pour se rendre compte de ce que cela signifie pour de nombreuses familles depuis des décennies de ne pas savoir où leurs proches ont été enterrés, ni les circonstances de la disparition.
Las circunstancias de su desaparición, ni otras muchas circunstancias que hacen que esas familias, digamos, todavía sigan.
Ce qui fait que ces familles souffrent encore ou vivent un traumatisme très important. Je pense donc que de nombreux secteurs de la droite ont manqué de sensibilité à l'égard de ces personnes et de ces victimes.
Por parte de muchos sectores de la derecha hacia esas personas, hacia esas víctimas.
Ils ont toujours considéré que c'était ouvrir une plaie, alors que pour ces personnes, cette plaie, elle n'a jamais été refermée. La situation est donc un peu délicate.
Un poco delicada. El hecho mismo, por ejemplo, la falta de sensibilidad que ha habido en muchas.
Le fait même, par exemple, qu'il y ait eu un manque de sensibilité dans beaucoup de mairies conservatrices qui, non seulement n'ont pas appliqué la loi en ce qui concerne l'enlèvement des symboles ou la récupération des fosses communes, mais ont tout fait pour empêcher l'ouverture de tombes, par exemple, ou le maintien de lieux très symboliques.
De lugares muy simbólicos. Doy un ejemplo muy concreto, pero por ejemplo, después de la ley todavía persistía.
Je vais vous donner un exemple très concret. Le mur du cimetière de Badajoz, où des centaines de personnes avaient été fusillées, où les impacts étaient encore visibles. Ce que le conseil municipal du Parti populaire de Badajoz va faire, c'est fermer ou enfermer ce mur dans un autre mur, d'une manière ou d'une autre.
Clausurar de alguna forma o enclaustrar.
Le conseil municipal du Parti populaire va fermer le mur à l'intérieur d'un autre mur en arguant du risque de chute du mur et de blessures, etc. En d'autres termes, il y a eu une élimination claire, si l'on peut dire, de ces traces, de ces vestiges, dont le but de dissimuler cet épisode.
Digamos, de esas huellas, de esos restos, con un objetivo de ocultar, digamos, ese episodio. La resistencia, por ejemplo, que ha habido a aplicar la ley en muchos casos es hiriente.
La résistance à l'application de la loi dans de nombreux cas est blessante. Par exemple, le médaillon qui existait sur la place de Salamanque, c'est-à-dire que le conseil municipal non seulement ne l'a pas enlevé, mais l'a protégé contre la peinture et d'autres attaques.
Ce n'est qu'en
2017 que ce médaillon a été retiré, à la suite d'une décision de justice prise après plusieurs années d'un processus assez long. Le fait qu'un conseil municipal démocratique ne respecte pas la loi et que ce soit un juge qui l'oblige à la respecter montre à quel point il s'agit d'une question qui continue d'interpeller la société espagnole de manière très claire.
Sigue enfrentando de una forma muy muy clara a la sociedad española.
Cependant, la loi de 2022 n'a pas touché la loi la plus polémique de la transition, la loi d'amnistie qui bloque la poursuite des bourreaux.
En principio, digamos, hay que tener en cuenta, está claro que la ley de amnistía de
Eh bien, en principe, nous devons garder à l'esprit que la loi d'amnistie d'octobre 77 marque en quelque sorte un jalon, dans le sens où l'on va regarder vers l'avant, essayer de, je ne dirais pas d'oublier, mais de tourner la page.
Yo no diría olvidar, pero sí de pasar página.
Peut-être sans l'avoir bien étudié, mais bon, de tourner la page et de regarder vers l'avant sur ces questions. Je ne sais pas, j'ai peut-être une vision moins critique en grande partie parce qu'il faut la replacer dans le contexte de l'époque. Il s'agissait pratiquement de la première loi adoptée par les Cortés en 1977 et surtout d'une loi qui, promue par la gauche, cherchait à incorporer de nombreux, des centaines, des milliers de prisonniers politiques qui étaient en prison en demandant l'amnistie pour ces personnes afin qu'elles puissent participer au processus démocratique qui commençait à l'époque en Espagne.
Presos políticos que están en las cárceles y lo que buscan, digamos, es la amnistía de esas personas para que puedan participar en el proceso democrático que se está iniciando en ese momento en España. Forzosamente eso lleva, o uno de los aspectos que aparecen en esa ley es...
L'un des aspects qui apparaît dans cette loi est le fait que les personnes, ces personnes, les fonctionnaires qui ont commis des exactions pendant la dictature franquiste ne peuvent pas être poursuivis.
En principio no es un aspecto que tenga excesiva importancia. Poco a poco con el tiempo sí que va a ser una ley que de alguna
en principe,
manera va
a ce n'est pas un aspect particulièrement important, mais petit à petit avec le temps, cela deviendra une loi qui d'une certaine manière empêchera ou déterminera qu'il ne sera pas possible d'établir, bien que tous les juristes ne soient pas d'accord, que des poursuites judiciaires ne peuvent pas être engagées contre des fonctionnaires ou des autorités franquistes. Mais je crois que dans le contexte de 1977, disons, c'était une loi qui avait tout son sens, même si les conséquences dans le temps étaient inévitablement négative.
Guerra. En un momento dado, yo no estoy de acuerdo tampoco con ello, pero bueno, se intentó explicar como una locura.
La guerre à un moment donné, je ne suis pas d'accord avec cela non plus, mais bon, on a essayé de l'expliquer comme une folie collective. Et c'est loin d'être le cas. Peut-être est-il essentiel, disons d'une certaine manière, d'expliquer les circonstances, de les situer dans un contexte européen très complexe. Peut-être que l'anomalie, disons, de l'Espagne dans ce contexte, c'est que le dictateur ait duré si longtemps, puisque Hitler, Mussolini et d'autres dictateurs ont fini par tomber après la fin de la victoire des Alliés. Alors que Franco a réussi à éviter toute une série de circonstances défavorables et à rester au pouvoir pendant près de 40 ans, ce qui est une anomalie, disons, dans sa durée.
On apprend l'histoire pour ne pas la répéter. Mais près de 50 ans après la fin de la dictature, il n'y a pas de consensus sur la guerre civile et surtout sur la dictature. Aujourd'hui, dans les médias, on entend de plus en plus des commentateurs qui disent que la guerre a en réalité commencé en 1934 ou que le coup d'État a été nécessaire pour préserver l'ordre dans les pays. Et dans les écoles, la controverse sur cette période de l'histoire fait que beaucoup préfèrent contourner son enseignement. Je demande à Jesús si pour les jeunes générations, la défaillance de cette éducation est problématique.
Quizás sea bastante complejo todavía, porque...
C'est peut-être encore assez complexe parce que toutes ces questions d'histoire... Aujourd'hui même, un étudiant me disait qu'il n'avait jamais étudié la guerre civile espagnole. Et c'est vrai que ben, c'est quelque chose de récurrent.
Nous le voyons comme une espèce de... comment dire...
Est-ce que nous le voyons parfois comme une sorte de stéréotype selon lequel les professeurs d'histoire ne veulent pas arriver ou arrivent en retard à cette période parce que vous devez donner beaucoup de syllabus, etc. Je pense que ça reste une expérience qui est aussi vécue d'un point de vue familial. Pas forcément toujours en fonction de l'héritage qu'ils ont reçu du côté où ils étaient, mais c'est forcément quelque chose sur lequel, disons, ce qui a été transmis dans la famille peut avoir plus de poids que ce qui a été transmis à l'école. Et c'est peut-être là que réside la difficulté d'une certaine manière.
Lo que se ha transmitido en la familia puede que tenga tanto peso más que lo que se transmite en la escuela. Y quizás ahí estén las dificultades de alguna manera de confrontarse.
D'affronter cette réalité, qui est finalement une réalité complexe. Il est difficile d'expliquer une guerre aussi sanglante, aussi dramatique entre frères et sœurs, parfois au sens propre.
Tan cruenta, tan dramática entre hermanos, a veces literal. Entonces, bueno, yo creo que es complejo.
Je pense donc que c'est complexe. Je pense que l'une des premières étapes serait de dépolitiser l'enseignement de cette question, de ce processus, sortir des bons et des méchants et d'essayer d'expliquer une fois pour toutes quelles ont été les circonstances, ce qui a entraîné cette confrontation.
Les buenos y malos y tratar de explicar de una verdadera vez cuáles fueron un poco las circunstancias, qué es lo que propició ese
conflicto. La profondeur et la cruauté avec lesquelles certains épisodes ont été menés durant ce conflit.
Se llevaron a cabo algunos episodios durante este conflicto.
Ce qui après tout reviendrait à se regarder dans le miroir, et cela aussi parfois, non, tout le monde n'est pas d'accord avec le reflet provoqué. Parfois il est vrai que nous nous regardons trop le nombril. Julian Casanova, un grand historien, essaye toujours de voir, de mettre en évidence la dimension internationale qu'il y avait dans la guerre d'Espagne. Peut-être à cause de cette durée dans le temps, un autre aspect qui me semble important, c'est qu'il n'y a pas une vision aussi homogène de la dictature de Franco comme, disons, un dictateur autoritaire, cruel, etc. Parce qu'en fin de compte, la dictature a duré 40 ans et les 15 ou 20 dernières années, disons, sans que la torture, sans que la répression ne disparaisse complètement, les aspects économiques vont prévaloir. Et l'Espagne n'est plus l'Espagne des années 40 et 50.
Años, digamos, sin que esa tortura, sin que esa represión desapareciera por completo, ni mucho menos, los aspectos económicos van a prevalecer. España deja de ser esa España de los años 40 y los años 50.
Le contexte international est donc fondamental pour comprendre les circonstances au moins. Mais il y a aussi un élément propre qui est très significatif. La question du catholicisme, par exemple, la question du poids de l'anarchisme, sont parfois des aspects qui sont tout à fait singuliers dans le contexte européen de l'époque et qui ne sont pas toujours pris en compte.
Bastante singulares dentro del contexto europeo de la época también y que no siempre se tienen en cuenta.
Tu vois?
C'est le acte de...
naturalisation.
Okay.
Parce qu'on a été naturalisé en même temps que nos parents.
Okay.
Donc, il y en a pour qui c'est plus facile, mais dès que tu rentres pas dans les normes, c'est très très compliqué. Et donc là, ils m'ont bien dit...
Janine Molina cherche aujourd'hui, grâce à la loi de 2022, à récupérer la nationalité espagnole. La nouvelle loi, aussi connue comme Ley de Nietos, loi des petits-enfants, rend plus facile son accès aux enfants et petits-enfants des exilés de la guerre et la dictature. Les enfants ou petits-enfants des Espagnols qui ont dû à un moment donné renoncer à leur nationalité, par exemple au moment d'être naturalisés français ou se marier avec un étranger, peuvent maintenant récupérer la nationalité espagnole. Les consulats d'Espagne à Bordeaux expliquent qu'avec la loi de 2022, 156 demandes ont été reçues à ce jour, dont 32 ont été acceptées. La grande majorité des demandes sont en attente d'acceptation en raison de l'absence de certains documents requis par la loi. Quelques autres ont été transmis au bureau d'état civil compétent pour traitement. Au cours des premiers mois de l'application de la loi, il n'y a pas eu beaucoup de demandes, mais au cours de 3 derniers mois, une fois que la loi a été plus largement connue par les citoyens, il y a eu une augmentation du nombre des demandes de nationalité. Je demande à Janine pourquoi c'est important pour elle, maintenant, d'avoir la nationalité.
C'est un acte politique, parce que je suis très inquiète de ce qui se passe en Espagne, comme ce qui se passe en France, et je me dis que j'aimerais bien voter, vraiment, parce que je voudrais pas que Vox passe. J'ai vu les derniers sondages, c'est le PP qui est en tête pour les prochaines élections, hein, de loin. Donc je me dis que si j'ai la nationalité espagnole, au moins je pourrais voter. Et après, je pense aussi que c'est comme une réparation de plus par rapport à mon histoire.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te nombra vivir.
Depuis mon arrivée à Bordeaux, je constate que les drapeaux de la Deuxième République espagnole, rouge, jaune et violet, est un symbole pressant dans toutes les manifestations contre la réforme de la retraite. Beaucoup de mes interviewés assistent à nos rencontres avec un petit pins aux couleurs républicaines, comme Madeleine Casado.
Donc j'ai grande fierté à porter ces couleurs. Dans les manifestations, il y a toujours le drapeau républicain qui émerge. Et c'est José Garcia qui fait ça, ancien président de l'association. Et lorsque je veux le rejoindre dans les manifs, je sais qu'il est là. Et donc, beaucoup de personnes s'approchent de lui, lui disent « Mais c'est quoi ce drapeau ?» Mais là, il raconte quoi. Et les jeunes sont très sensibles à ça. On reçoit aussi beaucoup d'étudiants espagnols qui viennent se déplacer sur la base sous-marine. C'est un prétexte. Et puis ensuite, dans le quartier Saint-Michel de Bordeaux, qui était l'ancien quartier espagnol, qu'on interroge en disant au jour d'aujourd'hui, où vous en êtes de votre histoire ? Où est-ce que vous en êtes de votre histoire au jour d'aujourd'hui ? Et c'est là qu'on voit, mais oui, ils commencent à connaître, à savoir leur histoire. Parce que j'avais des cousins qui étaient férus d'antiquité espagnole, et cette période-là, tu la connais ? Non. T'en parles pas ? Non. Donc, à chaque fois qu'on a qu'on présente des films à l'Utopia avec des débats ensuite, mais on voit qu'il y a énormément d'étudiants espagnols qui sont là, en France, et qui viennent pour discuter et qui s'intéressent vraiment à l'histoire. L'Espagne est en train de se réveiller, mais il va être temps, quoi. Il va être temps.
Hasta siempre, Jean-Pierre.
Face à la montée de l'individualisme et du nationalisme en Europe. C'est pour cela que nous commémorons ce 92e anniversaire de la Deuxième République espagnole. Qu'elle puisse nous servir d'exemple afin de ne jamais oublier l'espoir qu'elle a porté aux Espagnols dans sa modernité. Viva la République !
Viva !
Parmi les invités à l'hommage à la République, des représentants de la mairie, comme Vincent Morin, maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime.
La République espagnole a semé partout des graines de justice et de solidarité, de courage et de dignité. C'est pourquoi il était essentiel pour la ville d'être à vos côtés aujourd'hui, de représenter Monsieur le maire Pierre Urmic. Je tiens à saluer les actions inlassables en faveur du devoir de mémoire des associations présentes aujourd'hui. Cet hommage est aussi pour moi l'occasion de rappeler l'apport de la communauté espagnole à la ville de Bordeaux. Bordeaux était au début du XXe siècle une des capitales de la diaspora espagnole. Les Espagnols venus en Aquitaine ont participé par leur travail et leur personnalité à la prospérité et au rayonnement de la ville. La conscience politique des exilés et leur sens du militantisme et de l'engagement citoyen ont aussi marqué la vie politique et syndicale de notre ville. Aujourd'hui, leur intégration est tellement réussie que les Garcia, les Fernandez, les Lopez font partie des noms de famille les plus courants dans le Bordelais et ils passent aujourd'hui pour des patronymes locaux. Notre histoire est constituée des apports continus entre Bordeaux, l'Aquitaine et l'Espagne, dont la proximité géographique a créé au fil des siècles un sentiment de familiarité entre nos populations. Bordeaux est fier de son héritage espagnol. Donc je veux vraiment ici saluer tous ceux qui continuent par leur présence à permettre de transmettre aux jeunes générations à intervenir dans les milieux scolaires. Nous voyons ici comment en France l'extrême droite est active pour remettre en question le droit des femmes, pour remettre en question la démocratie, pour remettre en question les droits humains, la citoyenneté. Donc nous devons toujours rester vigilants, être mobilisés, connaître l'histoire nous permettra aussi de mieux préserver notre avenir et de construire un avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants demain. Donc merci encore à tous et vive la République espagnole.
Viva.
Pas mal, hein. Mais bon, après, pour trouver du travail, c'est plus compliqué.
Ouais, les souverainetés sont un peu difficiles.
Voilà. Et toi ?
Biochimie.
Des familles viennent assister à la cérémonie, ainsi que quelques touristes qui arrivent à la base sous-marine et qui découvrent aujourd'hui cette histoire. Il y a aussi un groupe de jeunes, des étudiants Erasmus, ainsi que des nouveaux migrants économiques arrivés à cause de la précarité du travail en Espagne après la crise de 2008. Janine et d'autres militants se font un vrai plaisir d'échanger avec eux. Un jour ou l'autre, il faudra passer le relais.
Oh, ah, mais je m'arrête. Tiens, Maria, voilà. Et toi?
J'étudie sociologie et travail social.
Ah, c'est bien, bravo. D'accord. Bah, écoutez, vraiment, merci. Vous me faites un bien fou de vous voir, rien que pour ça. Voilà.
Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, une plaque rappelle la mémoire des 5000 républicains espagnols internés dans les camps d'Argelès lors de la retirada du février 1939. Sur elle, on peut lire « Leur malheur, avoir lutté pour défendre la démocratie et la République contre le fascisme en Espagne de 1936 à 1939. Homme libre, souviens-toi. Hombre libre, recuérdalo. »
A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. La tierra, las tierras, las tierras de España. Tierras de España, la grande, la sola, desierta llanura. Galopa, caballo, cuacalbo, jinete del pueblo que la tierra estudia. A corazón suenan, resuenan las tierras de España. Y a corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra estudia. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Si va en tu montura. Galopa, va a caballo cuadrado, jinete del pueblo que la tierra estudia. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Merci Maria Diaz-Valderrama. C'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Hernier et Gabriel Taïeb. Illustration Emma Gillet. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.